Avis critique.
Raphaël Bourgois.
Les idées au banc d'essai, Avis critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui développent une certaine idée de l'évolution. Dans La pensée écologique aux éditions Zulma, le philosophe anglais Timothy Morton fait la proposition iconoclaste de penser l'écologie en s'affranchissant du principe de nature. Il puise aussi bien dans la théorie de Darwin, dans l'histoire philosophique, que dans une analyse du rôle de l'art contemporain, de la littérature ou du cinéma pour ouvrir des possibles contre la promesse de la catastrophe écologique. Le second essai dont il sera question ce soir, Crypto-communisme du philosophe Marc Alizard, est publié aux Presses universitaires de France. Il s'agit d'une tentative de comprendre comment les crypto-monnaies comme le Bitcoin et surtout la blockchain qui la rend possible peuvent offrir la possibilité d'un nouveau communisme. Comment ? En permettant une appropriation collective de la valeur. Et en studio pour débattre et pour nous expliquer tout de la blockchain et du Bitcoin, je vous le promets, mais ce sera en deuxième partie, Catherine Portevin de Philosophie Magazine, bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Et Joseph Confavreux de Mediapart, bonsoir Joseph.
Bonsoir Raphaël.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Timothy Morton, La pensée écologique, publié dans la toute nouvelle collection Essais des éditions Zulma. C'est le premier ouvrage publié dans cette collection. L'auteur est donc un philosophe anglais qui occupe la chaire Ritachet Guffey à la Rice University, c'est au Texas, et il est présenté par le quotidien de centre-gauche britannique, le Guardian, comme le philosophe prophète de l'anthropocène. On trouve ça dans le dossier de presse, évidemment. Il a malgré cela fallu attendre 8 ans après la sortie aux États-Unis de ce livre, sorti à la Harvard University Press, pour voir le livre traduit par Cécile Washbrot et publié en France. Pourtant, dès 2007, son essai « Ecology without Nature » chez le même éditeur avait été très remarqué. On y trouvait déjà l'idée de penser l'écologie contre un concept de nature déjà trop idéalisé. Mais partons du début, c'est-à-dire du constat fait par Timothy Morton, selon lequel l'entrée dans l'anthropocène offre une nouvelle possibilité de penser notre place sur Terre. Comment, en dépassant la sidération, ce qu'il appelle dans le deuxième chapitre du livre « Les sombres pensées », pour tenter de déterminer ce que seraient des êtres pensants écologiques. Pour y parvenir, le philosophe propose de penser grand, toujours penser grand, c'est-à-dire, dans un premier temps, de relativiser la toute-puissance de l'homme sur Terre. Penser grand impose en effet d'admettre qu'il existe des hyper-objets, le réchauffement climatique, les déchets radioactifs, dont l'ampleur dépasse l'entendement et ne peuvent être maîtrisés. Il insiste aussi sur l'interdépendance, ce qu'il appelle le maillage entre les hommes et les étranges-étrangers, c'est un autre concept qu'il manie beaucoup. Les étranges-étrangers, ce sont les animaux, les objets industriels, les virus informatiques. On retrouve une pensée ici proche de celle de Bruno Latour. Comme le sociologue français, il puise beaucoup aux sources de la création artistique contemporaine pour illustrer son propos. Cette pensée écologique n'est pas toujours facile à saisir, elle est un brin vertigineuse, mais elle a une fonction, nous aider à faire face à une catastrophe qui a déjà eu lieu, la catastrophe écologique, Catherine Portevin. Un mot peut-être de présentation de cet ouvrage qui, je le disais, demande quand même un petit peu d'effort pour rentrer dedans.
Ah, alors ça demande des efforts, moi je suis pas sûre, je pense qu'il faut surtout, c'est un livre qui se lit, voilà, c'est tout. Vous le prenez au début et vous le finissez. Il n'y a pas de difficulté particulière.
Et on voit ce qu'il en
reste. Voilà, c'est ça. Non, c'est-à-dire que moi, je trouve qu'il est très séduisant aussi dans sa forme. Il parle beaucoup de la question de la forme de la pensée. Il a quelque chose de... Il vient d'un substrat esthétique. Et la forme de ce livre et la forme de cette pensée est très agréable. C'est-à-dire qu'on la sent presque écrite au fil de la plume. Il n'y a pas de difficulté théorique particulière. Si on veut chercher en faire un vrai ouvrage théorique, il faut se reporter le lire avec les notes pour voir un peu d'où il parle. Parfois, il y a de l'ellipse, il y a des phrases. Bon, on ne sait pas très bien d'où ça sort, mais c'est pas une pensée articulée avec un grand deux, grand trois. C'est pas asséné. Moi, j'ai trouvé que le livre était extrêmement agréable à lire. Voilà. Maintenant, conceptuellement, effectivement, il est un peu piégeant parce que on pense que c'est simple et c'est plutôt compliqué. Timothy Morton, c'est une pensée penser, vous avez cité Bruno Latour, je pense qu'il va presque plus loin que Bruno Latour, dans la mesure où il pense réellement une espèce de totalité du monde après la catastrophe. Contrairement à beaucoup de pensées écologiques qui sont avant la catastrophe, ou dans la catastrophe annoncée, lui dit la catastrophe a déjà eu lieu, de toute façon nous y sommes déjà, et donc c'est maintenant, nous sommes déjà dans ce nouveau monde que, même sans le savoir, nous sommes en train de fabriquer. Et ça, je trouve déjà, c'est beaucoup plus stimulant que de dire, attention, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on construit une cabane ou un abri anti-atomique avant de savoir que tout va péter? Donc ça, c'est déjà beaucoup plus stimulant. L'autre élément très important, c'est effectivement de présenter une pensée écologique qui englobe tout ce que c'est que de penser. C'est là où c'est peut-être un peu difficile, cette pensée-là, mais qui n'est pas, qui sorte vraiment des rails dans lesquels on l'a communément embourbé, c'est-à-dire la question de la préservation de l'existant, la nature, quelque chose d'assez ascétique, et qu'il a, contre cela, il est vraiment, c'est plutôt une pensée de la folle dépense en réalité. Et c'est ça que je trouve très séduisant dans cette pensée.
Oui, on va revenir évidemment à cette idée qui est très forte que je citais en introduction, c'est-à-dire l'écologie contre le concept de nature avec un grand N. Et évidemment, vous vouliez rajouter quelque chose.
Pour autant, on va certainement le développer. Il développe ce courant de la dark ecology, de l'écologie sombre. Parce qu'elle est fondamentalement mélancolique, non pas forcément tournée vers le passé, mais en ayant une forme de
catastrophisme. C'est
une pensée du désastre, voilà.
On parlait de Jean-Pierre Dupuis il y a pas longtemps.
Ce que j'aime chez Morton, c'est qu'il est très très branché sur la pensée sensible. Il donne énormément d'exemples en littérature, ça c'est très important, et aussi en musique, c'est un rocker. Il dit quelquefois, il parle de lui comme d'un gothique démodé. Certains de ces concepts dont on va parler, comme l'hyperobjet, sont directement inspirés de Björk, la chanteuse Björk. Il capte beaucoup de choses.
L'esthétique est aussi très très importante dans la pensée écologique de Timothy Morton. Donc cet essai publié chez Zulma. Mais Joseph Confavreux, avant de rentrer dans ces raffinements théoriques, un mot plus général. C'est vrai que c'est un livre qui entend réparer un petit peu ce qu'il appelle un trou dans le tissu de notre entendement. C'est-à-dire que face à la catastrophe, on a déjà parlé d'autres livres, comme le livre de Jean-Pierre Castel par exemple, ou d'autres qui essayaient comme ça de réparer cette espèce de sidération dans laquelle on se trouve face à la catastrophe écologique qui vient.
Oui, c'est là où le livre est intéressant, parce que moi je trouve que par certains côtés, il a assez rapidement vieilli méthodologiquement, ne serait-ce parce que ce champ un peu des études sur l'écologie, l'environnement, la pensée écologique, qui a presque 10 ans, a été un des plus féconds des 10 dernières années. Donc, à certains égards, il a pas mal vieilli. Et en même temps, il arrive pile dans un moment où l'effondrement, pour reprendre donc le terme popularisé par Jared Diamond dans son best-seller du même nom, on sent bien que ça nous aide plus à penser le monde, ou du moins à agir sur lui. C'est-à-dire que ça a été important de considérer qu'on allait sans doute vers des catastrophe ultime, mais on voit bien que ça a quelque chose de décourageant, ou qu'il y a même une sorte de pornographie de l'effondrement, et qui décrit assez bien Timothy Morton dans le fait de s'imaginer déjà mort, d'imaginer la Terre sans l'humanité. Et donc, ce livre est à la fois, à mon avis, déjà un peu vieilli, et en même temps tombe à un moment où on est vraiment dans cette problématique. Et comme dit Catherine Portevin, effectivement, il faut le suivre un peu au fil de l'eau. C'est important, je pense, de qu'il ait été traduit à la fois par une très bonne traductrice, qui est aussi une vraie écrivain, qui peut lui donner la mesure.
Donc, Cécile Vachebrotte.
De Cécile Vachebrotte. Après, moi, j'ai l'impression qu'il veut faire effectivement à la fois du rock, de l'épistémologie, de la philosophie, de la littérature, de la politique, et que ça lui donne quelque chose d'à la fois impressionnant et pénible, parfois. Parce que, comme dit ma grand-mère, qui trop embrasse mal étreint, et des fois, il s'écoute un peu écrire, on est dans des trucs très grandiloquents, c'est-à-dire que la pensée écologique, avec un P majuscule, c'est à la fois quelque chose de très intéressant, on va revenir à cette idée que c'est justement contre, voire en dehors de la nature, mais des fois il nous explique que c'est une pensée difficile, et moi j'ai l'impression que c'est une pensée qui surtout est des fois un peu déstructurée.
Catherine Portevin, alors arrivons à cette idée centrale de l'écologie contre la nature. Qu'est-ce que Timothy Morton reproche à la nature avec un grand N et en quoi ce concept de nature ne nous permet pas d'avancer vers une pensée écologique?
Parce que fondamentalement, il essaye de penser le monde, c'est très lié à sa notion de maillage. Il essaye de penser le monde comme étant presque, nous sommes tous symbiotiquement
un réseau d'interconnexion.
Un réseau d'interconnexion entre tous les êtres, et pas seulement les êtres vivants. Et donc ça, c'est une pensée d'ailleurs qui est très proche de celle de Latour, et je m'imagine très bien Latour s'étant inspiré de Morton ou l'inverse. En tout cas, ce qu'il reproche au concept de nature, c'est d'être justement un pur concept, c'est-à-dire que en réalité, la nature n'existe pas. La nature conçue comme un pur décor n'existe pas. Lui, il fait partie aussi d'un courant philosophique qui s'appelle le réalisme spéculatif ou l'ontologie orientée objet. Ça, c'est vraiment le
C'est la deep philosophie, là.
C'est de la deep philosophie, mais qui est très intéressante aussi, absolument incompréhensible pour le commun des mortels dont je fais partie, mais qui essaye de revenir à une forme de réalisme, c'est-à-dire de prendre les choses, de revenir aux choses telles qu'elles sont. Voilà. La nature elle-même n'existe pas. Elle est forcément traversée de plein de choses, et tout ce qui est le courant, son ennemi, c'est le courant de la deep ecology, ce qu'on appelle l'écologie profonde, qui valorise une forme de sauvage, de nature sauvage, qu'il faudrait retrouver ou préserver, et dont il dénonce les accents les plus réactionnaires. Mais ça, c'est pas vraiment une nouveauté. Son autre ennemi, c'est ce qu'il appelle le mignon, c'est-à-dire le côté un peu belle âme, un peu bon sentiment, qui peut se retrouver dans beaucoup d'animalistes, toute la question animale, dont il essaye de rejouer autrement, en disant que c'est être obsédé de l'anthropocentrisme, c'est déjà d'être anthropocentrique. Et donc il essaye d'être entre ces deux écueils, et je pense qu'entre ces deux écueils, profondément, il le dit d'ailleurs à un moment donné, qu'il préfère à tout prendre le toutou de la vieille dame, le côté mignon du toutou, parce qu'au moins c'est un objet hybride qui correspond à ce qu'on peut penser que la deep ecology est la nature sauvage, qui pour lui représente un grand grand danger dans la pensée écologique.
Joseph Confavre.
En fait, on a l'impression qu'il rejette, moi j'ai identifié quasiment quatre formes de nature. Il rejette la nature comme décor environnemental, et donc l'environnementalisme, ça c'est pas l'écologie.
Le paysage,
presque. Le paysage. Il rejette la nature de la deep ecology, pour proposer lui une dark ecology, qui est cette nature qui donne une valeur intrinsèque aux êtres vivants, et à la nature et à la terre, et qui quasiment en fait estime que la terre se porterait mieux sans les hommes, hein, pour caricaturer un peu quand même la philosophie d'Arnaud Ness, qui est un de ses théoriciens. Il rejette la nature effectivement mignonne, et il rejette au fond le fantasme de nature, et ça il a des bons exemples, parce que par exemple il dit voilà, la pensée écologique, moi telle que je la propose, elle suppose par exemple de penser à ce qu'on n'aime pas trop penser, par exemple où vont les eaux usées de vos toilettes, en rappelant quand même quelque chose d'intéressant, c'est que en fait on boit de l'eau recyclée, et qu'en fait cette eau recyclée des toilettes, c'est des eaux usées, elle est en fait plus saine que l'eau prétendument naturelle. Il donne un autre exemple dans le Colorado où des habitants se sont opposés à l'installation de panneaux solaires parce que ça faisait pas assez naturel. Donc sur ça, je trouve qu'effectivement il marque des points sur la manière dont on a au fond des idées de la nature qui en viennent à contrarier une vraie pensée écologique.
Ouais, on connaît les mêmes exemples en France, par exemple avec les éoliennes qui défigurent les paysages, et donc on a pour la défense des paysages et évidemment un argument contre une avancée écologique. Enfin bon, même si les éoliennes ça se discute, mais voilà, c'est.
Alors moi il me semble qu'il y a, à partir de ces analyses qui sont assez justes, deux limites. Une limite qui est que c'est quand même pas le premier à penser ça, hein. On a parlé de Benoît Latour, mais par exemple quelqu'un comme Philippe Descola avec son livre fondamental Par-delà nature et culture, ça fait déjà un moment que au fond les gens ont appris à distinguer, à ne pas considérer que le mot nature se réduit à ce qu'il en fait. Ça c'est sur l'aspect, c'est pas non plus ultra novateur que de dire ça, même s'il le dit de manière parfois un peu plus radicale. Et il me semble aussi que, alors qu'il insiste pour dire qu'au fond, c'est quoi la pensée écologique, puisque c'est ça le titre de son livre, c'est le maillage, c'est le fait que l'existence est coexistence. Et coexistence non seulement entre les humains, mais entre les humains et les non-humains, pour simplifier les choses.
Et là. Et entre le naturel et le non-naturel.
Entre
aussi.
Le naturel et non-naturel, et même entre l'humain et l'inhumain, voire le non-humain, voire l'inhumain. Mais c'est là où je trouve un petit peu ambigu, c'est que par exemple, du coup, il a un grand mépris pour ce qu'il appelle la pensée verte, qui s'intéresserait au nid d'oiseau, le local, le bio, alors que tout son propos est de dire qu'au fond, on manque d'imagination, de capacité de perception de ce qui nous arrive, et que tout est maillé, et que donc moi je me dis que d'une certaine manière, évidemment qu'on peut pas réduire l'écologie à l'intérêt pour les nids d'oiseaux, pour les haies ou le local et le bio, mais est-ce que c'est pas déjà un moyen de se reconnecter, puisqu'il insiste sans cesse sur ça, au monde qui nous entoure. C'est là où il a une position un peu d'esthète, parfois, qui à mon avis dessert son propos, qui est quand même important.
Oui, d'autant plus que son propos, c'est de prôner une ouverture radicale à tout, et donc exclure des façons de penser ou des façons d'être. Quand on prône une ouverture radicale à tout, c'est vrai que c'est un peu antinomique, Catherine Portevin, mais avançons un petit peu justement sur... vous avez insisté dès le début à raison sur la forme de ce livre, qui est donc un livre de philosophie, mais qui puise aussi beaucoup dans des exemples pris dans la littérature, le cinéma, la musique. Et évidemment, vous avez parlé de la chanteuse islandaise Björk, qui est très très présente dans ce livre. Et il y a, par exemple, quand il parle de cette idée de la nature et qu'il n'y a pas de monde authentique. Il fait un long développement sur la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, qui est un auteur de science-fiction. Et on voit avec cet exemple comment Timothy Morton, dans la pensée écologique, peut développer finalement une approche qui est aussi une approche esthétique et théorique. C'est-à-dire qu'il mélange esthétique et théorie, théorie politique.
Et théorie politique, oui. Alors c'est d'ailleurs, il est très connu dans les milieux de l'art contemporain. Et donc c'est une source d'inspiration très très importante. Il y a quelque chose de quand il dit qu'il est un gothique démodé, je pense qu'il a un peu raison. Enfin, il n'est pas loin de
sur le côté gothique ou le côté démodé.
Le côté les deux. Les deux. Je pense que dans gothique, c'est à cause de son côté noir. Mais démodé dans le sens où il faut redonner de la place à des actes très simples comme d'être au coin du feu. Il reparle par exemple de il rediscute Descartes et qui serait responsable de ce fameux dualisme entre l'âme et le corps, l'homme et la nature, etc. Et il dit oui, mais il faut voilà, il a des remarques comme celle-là qui sont assez plaisantes, en disant oui, mais il faut quand même penser que c'est au cours d'une, il y a une matérialité de cette pensée qui est la page écrite au coin du feu, et le doute vient d'une lecture au coin du feu. Voilà, c'est le genre de petites notions qui font sourire, qui peut-être n'apportent pas grand-chose à la façon de penser, mais qui sont quand même très importantes. De la même manière, il s'inspire beaucoup aussi vous avez dit la science-fiction, mais du cinéma. Il a une critique assez rude de Into the Wild,
le
film de Sean Penn, plutôt aussi, tout en disant je leur reproche rien, mais c'est assez typique justement de ce qu'il dénonce dans la Deep Ecology, c'est-à-dire voilà. On peut mourir face
en mangeant une plante empoisonnée parce qu'on a un délire de retour à la nature, voilà. Et qu'on va vivre dans un bus abandonné en Alaska. Parce que c'est le film Into the Wild, pour ceux qui n'auraient pas vu.
Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette recherche qui est très typique de ce mouvement dont je parlais là sur le nouveau réalisme, c'est-à-dire d'essayer de faire ce qu'on appelle les ontologies plates, c'est-à-dire de mettre au même plan tout ce qui existe, voilà. Et c'est sa notion d'hyperobjet. L'hyperobjet n'est pas forcément quelque chose de grand. C'est quelque chose qui est partout ou qui est nulle part. Et du coup, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il parle du polystyrène, par exemple, comme étant un hyperobjet. C'est-à-dire que le polystyrène, il est aussi bien, peut-être, on a tous des traces de polystyrène dans nos intestins parce que il y a des traces de polystyrène dans les aliments, dans les poissons qu'on peut manger, comme il y en a effectivement dans les océans de plastique. Et donc ça, je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes. intéressante pour simplement pour apprendre à changer de regard. Voilà, effectivement, depuis, il y a eu beaucoup là, les théories de la tour, mais d'une certaine manière, je serais pas étonnée que la tour se soit inspirée de Morton largement autant que l'inverse. Voilà.
Joseph Confavreau.
Il y a un bon exemple qui en plus résonne avec ce qu'on a vécu cet automne et cet hiver, qui est la manière dont il attaque les notions de frugalité, de pauvreté, qui lie lui à l'environnementalisme, et il dit bien que c'est pas comme ça que non seulement ça permet de mettre en place des politiques d'austérité, mais c'est pas en promettant au fond que de la frugalité, que de la privation, qu'on pourra avoir une pensée écologique de nature à répondre à la catastrophe qui a déjà eu lieu ou qui est déjà en cours. Après, donc, il dit qu'il faut retrouver le plaisir dans les coordonnées de la pensée écologique. Moi, je pense qu'effectivement, de même que l'industrialisation du monde a abîmé le monde, elle a sans doute abîmé nos perceptions, et que pour permettre quelque chose d'autre, il faut retrouver des modes de perception. Après, on voit pas très bien comment on pourra, sans restriction, faire face à la catastrophe qu'on l'estime déjà produite, en cours ou à venir. Il me semble important, c'est une manière de dire, on ne peut pas penser la fin du monde sans penser la fin du mois. On peut pas penser la situation subjective, notre petite place sur la planète, sans penser aujourd'hui la dimension planétaire. Mais il n'arrive pas complètement, il me semble, à nous dire du coup vers quoi on peut se diriger alors politiquement.
Alors, je crois que la question, par exemple, de la géo-ingénierie, qui est toujours un peu tabou dans les pensées écologiques, c'est-à-dire de quelle manière, en fait, on peut intervenir par la technique contre le réchauffement climatique. Il n'en parle pas directement, mais on sent que, du coup, sa pensée peut déboucher vers une défense de la géo-ingénierie, pas pour elle-même, ça dépendra. Mais ce qu'il en dit, lui, parce que on a fait un entretien dans Philosophie Magazine avec lui, c'est que le problème, c'est pas sur le principe qu'il serait opposé à cette idée-là, mais c'est plutôt que le grand danger de la géo-ingénierie, c'est que on a qu'une seule chance, c'est-à-dire diffuser par exemple, je sais plus, de l'azote dans l'atmosphère pour faire baisser la température, c'est techniquement concevable, mais le jour où on le fait, si on n'a pas pensé aux conséquences et que les conséquences peuvent être désastreuses, ça peut être très très embêtant. Donc de ce point de vue-là, je pense pas qu'il puisse défendre une géo-ingénierie folle non plus.
Alors on n'a pas eu le temps de parler des Tibétains nomades envoyés sur Mars, alors je laisserai les auditeurs.
Ça, c'est dommage parce qu'il raconte comment il a planté sa tente sur un plateau tibétain et ce que lui inspire le ciel étoilé. On est sur un ton assez étrange.
Mais oui, mais moi j'aime bien ça.
À la fois super et exaspérant par moments.
Il faut dire aussi qu'en réalité, ce livre, c'est une longue relecture de L'origine des espèces de Darwin.
Oui, on a évoqué Darwin, important. Mais on n'a pas eu le temps de développer ce qu'en fait Timothy Morton, qu'est-ce que nous aurait pris beaucoup trop de temps, puisque lui, ça lui prend quelques 250 pages. Donc, je renvoie nos auditeurs vers La pensée écologique, donc de Timothy Morton, c'est chez Zulma.
France Culture, Avis Critique,
Raphaël Bourgois.
Loki, Loki, you should really get to know me. Loki, Loki, you should really get to know me. Yeah, I know you got some things that you could show me. Loki, Loki, you should really get to know me. I see you looking at my body very closely, but there's a lot of things about me that you don't see. You know we can take it faster, take it slowly. We could fly out to Ibiza and get cozy. All your friends are looking for you, they don't know where you're at, 'cause you left with me and slipped out the back. Low-key, low-key, you should really get to know me. Low-key, low-key, you should really get to know me. Yeah, I know you got some things that you could show me. Low-key, low-key, you should really get to know me. Let's forget about our phones until the morning. We can post up, no one gets to see us. I can take you places you ain't been before me.
Deuxième temps de l'émission, on va évoquer maintenant le dernier essai de Marc Alizart, Crypto-communisme, publié aux presses universitaires de France dans la collection Perspectives critiques. Alors il se trouve, mais ce n'est pas fait exprès, que quand on avait évoqué l'année dernière son précédent livre intitulé Chien, c'était déjà vous, Joseph Confavreau et Catherine Portevin, qui étiez venus en parler de manière très positive. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, on avait même appris à l'occasion, Joseph, que Marc Alizart avait été votre camarade de cagne. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi la toute première saison d'Avis critiques. Alors dans l'essai qui nous intéresse ce soir, le philosophe poursuit son travail sur des objets insolites afin d'essayer de dessiner des perspectives contemporaines. Il ajoute d'ailleurs à la difficulté, puisqu'à son habituelle érudition et agilité qui lui permet de jongler avec les concepts et les philosophes, au risque parfois d'ailleurs de perdre un peu le lecteur, il se penche ici sur un objet presque incompréhensible, il faut bien le dire, les crypto-monnaies et leur corollaire, la blockchain, incompréhensible parce qu'il mélange la théorie de la valeur à travers l'analyse de la monnaie et les possibilités techniques offertes par la maîtrise des algorithmes. Mais pour aller au plus simple, la révolution des crypto-monnaies, c'est de proposer un système de désintermédiation, de garantie de la valeur, qui peut se passer des banques ou des autres autorités centrales. Le protocole appelé Bitcoin permet de partager un fichier qui n'est pas reproductible. Il offre ainsi un niveau de sécurité maximum à toutes les transactions, à tous les contrats possibles. Un rêve à la fois de libertarien, mais l'opportunité aussi, selon Marc Alizart, de réinitialiser le communisme en remplaçant l'autorité verticale d'un seul sur tous par une relation horizontale de coopération. Joseph Confavreux, est-ce que vous avez lu ici un nouveau manifeste ou un essai au sens premier du terme? Comment est-ce qu'on lit ce livre Crypto-communisme?
Eh ben, c'est une bonne question parce qu'il y a sans doute beaucoup de manières de lire, comme souvent avec Marc Alizart, en se demandant si on tient entre les mains le manuel génial compréhension de notre monde moderne auquel on ne comprend plus rien, ou si on est dans un délire personnel assez fort. Puisque vous avez outé mon ancienne camaraderie de Cagne avec Marc Alizart, je vais en rajouter une petite couche en saison 2. Marc Alizart, qui était de loin le plus brillant de notre Cagne, n'a pas intégré l'école normale supérieure parce que je pense qu'il commençait ses devoirs, ses dissertations par là où nous on finissait éventuellement à arriver. Et donc comme il faut être un peu scolaire quand même pour passer normale sup, je pense que les correcteurs n'ont jamais su si c'était du lard ou du cochon. Et là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on a à la fois quelque chose d'ultra brillant. Moi je pense plus convaincant même que Chien, dont on a parlé l'an dernier, qui faisait l'hypothèse qu'au fond le chien avait laissé l'homme gérer au fond le monothéisme et les affaires du monde pour être peinard en train de profiter de la vie, mais qu'en fait c'était le chien qu'il fallait imaginer à la place de Dieu. Voilà, là c'est plus convaincant et ça part quand même
moins délirant. Ouais.
Bon, ça reste délirant, ça reste des grandes formules. En gros, il y avait cette fameuse formule de Lénine, enfin attribuée à Lénine, les communistes c'est le soviet plus l'électricité. Lui, c'est le crypto-communisme, c'est les soviets plus le wifi, le blockchain, le bitcoin. Donc on va venir à tout ça, mais avant cela, je voudrais quand même dire qu'à mon avis, si ce livre pour moi touche plus juste que le précédent, c'est que on voit bien qu'aujourd'hui la monnaie, c'est à la fois la boîte noire et la pierre de touche de toute politique contemporaine. On l'a vu au moment de la Grèce de ce qui s'est passé avec l'Europe à ce sujet. On voit aujourd'hui que les démocrates un peu qui bousculent le parti démocrate aux États-Unis comme Alexandria, Ocasio-Cortez se fondent sur ce qu'on appelle la MMT, la théorie monétaire moderne, pour financer ce qui serait un Green New Deal. On est vraiment dans quelque chose qui est dur à comprendre, dur à mettre en place, mais qui me semble être vraiment fondamental si on veut changer de politique. Et tout le monde dit qu'il faut changer de politique, on sera obligé d'en passer par la monnaie. Après, je suis pas certain que la solution de Marc Alizart soit la bonne, mais en tout cas, l'idée que c'est comme ça, en passant par d'autres formes de monnaie, et pourquoi pas les crypto-monnaies, qu'on pourra repenser une action politique, elle me semble judicieuse.
Catherine Portevin, avant de nous expliquer toute la blockchain et de nous faire enfin comprendre de quoi
Catherine Portevin expliquer.
Non, mais peut-être que je m'y risquerai
tout à l'heure, parce que c'est pas mon premier essai en la matière. Non, mais Catherine Portevin, juste une première lecture de ce livre donc de Marc Alizart.
Je n'ai pas été compagne de Cagne de Marc Alizart, mais je vois très bien ce que peut ce que raconte Joseph, j'imagine très bien le personnage. Que,
c'est un profil assez courant.
En tout cas, ce qui est très remarquable dans sa façon de faire, c'est ce qui le rend intéressant et stimulant, c'est que lui aussi, c'est que il a comme une forme d'amateurisme dans sa façon de prendre les sujets. Je dis ça au sens fort, pas au sens du tout méprisant. C'est-à-dire, je dis pas que c'est un amateur en philo. Il est extrêmement solide et très 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 documenté, très cultivé, mais il y a d'abord l'amour, enfin il y a d'abord la passion, voilà, et ça alors du coup il a des passions qui l'absorbent, et donc et il a quand même une tendance qui m'empêche un peu de respirer à faire des systèmes. Son envie, c'est de recréer le monde. C'est vraiment de concevoir le système. Dans Informatique céleste, qui est un peu le précédent de ce livre-là, il réfléchissait déjà à l'informatique à partir d'une relecture de Hegel, et il mettait l'informatique comme l'équivalent de l'esprit chez Hegel, et l'ordinateur avait dans ce système-là la place de Dieu, le Deus ordinator, comme le disait la théologie.
De toute façon, il parle que de Dieu et de machine.
Il parle que de protestantisme ou de machine. Et donc, voilà. Donc, et déjà, il disait l'informatique a créé l'homme, de la même manière que dans les chiens, il disait le chien a créé l'homme. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont créé l'homme. Finalement, peut-être à un moment donné, il va finir par savoir ce qui a créé l'homme. En tout cas, moi, c'est ça. J'ai un peu de mal avec les pensées de système. Donc, il y a un moment, on a besoin d'aide.
Vous avez besoin de respirer.
Voilà. Mais je reconnais qu'en même temps, c'est toujours très intéressant de le lire, parce que c'est toujours très intelligent, ces façons d'articuler des carpes et des lapins. Et là, en l'occurrence, articuler une relecture de Marx avec le Bitcoin, qui était quand même considéré plutôt comme étant une invention anarchiste. Et même anarchiste de droite. Donc, je suis pas sûr que ça va faire plaisir aux anards de savoir qu'en réalité, ils sont communistes. Mais ça, je trouve que c'est une manière de prendre les choses à rebours qui est assez intéressante. Je précise que il est assez proche à Lizard, aussi dans cette collection Perspective Critique, qui est avec De Sutter,
Laurent Sutter, qui est le directeur de la collection,
d'un mouvement qui s'appelle le mouvement accélérationniste, qui est vraiment une sorte de mouvement qui essaime un peu partout. Et d'ailleurs, Morton est revendiqué aussi par les accélérationnistes comme étant dans ce mouvement-là.
Rien n'est dû au hasard dans cette programmation.
Non, c'est vraiment très fort, parce que les accélérationnistes, c'est né d'un manifeste qui a été énoncé dans les 2013 par deux universitaires anglais, et qui, en gros, était une espèce de contre-proposition au dépassement du capitalisme, non pas dans le ralentissement, mais au contraire, en accélérant tous les travers du capitalisme.
Pour
précipiter sa chute et pour le faire imploser de l'intérieur. S'intéresser à la technologie, par exemple, et la pousser jusqu'au bout, ça fait partie de l'accélération.
C'est très difficile à dire. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez évité de citer...
L'autre s'appelle Williams.
C'est beaucoup plus facile. Catherine Pantevin, donc, il avait publié un livre chez Lux, je crois, Lux Édition, sur le capitalisme de plateforme, dont on a parlé cette année à ce micro. Joseph Confavreux, cette analyse que fait Marc Alizard de Marx, il faut revenir dessus, parce que ça traverse évidemment tout le livre. Elle s'articule autour de peut-être quelque chose qui est moins connu de la théorie marxiste, qui est son rapport à la thermodynamique, à la question de l'énergie, au rôle de l'énergie dans l'économie. Alors je sais pas si on va réussir à faire comprendre ça simplement aux auditeurs. Marc Alizard arrive assez bien quand même à faire saisir de quoi il s'agit.
Autant effectivement, il se réfère à l'accès au manifeste accélérationniste qui a fait quand même shit, hein, faut bien dire. C'est-à-dire que le capitalisme va tellement vite que c'était quand même un peu n'importe quoi de prétendre le doubler sur la gauche. Mais bon, pour revenir à, il part de l'idée que Marx fréquentait les savants de son temps qui définissaient la science de l'énergétique, qui était la thermodynamique, au contact des premières machines à vapeur, et qu'au fond sa théorie économique reflète l'état des savoirs et notamment de la science de l'époque, puisque le communisme qu'on soit comme une sorte de redistribution énergétique, puisque la part du travail non payé par le capitaliste doit être restitué au prolétariat, pour le dire simplement. Et que dans ce cadre-là, la monnaie est quelque chose pour Marx qui n'est pas simplement une marchandise, c'est aussi un signe, et il est donc impossible de la réduire à une quantité d'énergie. Et au fond, la monnaie, ce serait la transcription économique de cette notion d'information, dont Marc Alizart dit que Marx n'avait pas les outils pour vraiment l'exprimer comme tel, mais qu'il en a eu l'intuition. Et là, c'est là où il est toujours fort. Il va chercher, alors il extrapole, hein, faut bien dire, il extrapole tout, mais il va quand même chercher des petits détails assez intéressants. Là, il va chercher le fragment sur les machines de l'introduction générale à la critique de l'économie politique, où Marx fait une hypothèse, qui a été travaillée aussi par un économiste comme Yann Moulier-Bouton à partir de Marx, de ce qu'il appelle le general intellect, qui affirme que on pourrait remettre en question toute la loi de la valeur, c'est-à-dire quand même tout le capital, hein, à partir de la petite note qui va chercher Marc Alizart, en disant qu'au fond, dans un avenir proche, la quantité générale d'intelligence accumulée dans la société permettrait peut-être d'en finir avec la théorie de la valeur, donc en fond d'une énergie qui est captée par les capitalistes ou les prolétaires de manière plus ou moins inégale, parce que l'augmentation de la productivité serait telle, les machines si performantes, que les hommes seraient libérés pour d'autres tâches que la production de marchandises, et qu'ils pourraient produire de l'information. Or, l'information, contrairement à l'énergie, où quand vous échangez de l'énergie, il y a une déperdition d'énergie, l'information, si je vous donne une information, vous l'avez et moi je la garde. Et donc, à partir de cette théorie-là, il dit que au fond, le blockchain et le bitcoin, sur lesquels on va revenir, seraient l'aboutissement d'une société de l'information, d'une société de la connaissance, de ce que certains ont voulu appeler une sorte de communisme cognitif, qui permettrait de changer la manière dont on théorise et on produit de la valeur.
Catherine Portevin, un mot peut-être sur cette relecture du General Intellect de Marx, oui. L'idée de General Intellect de Marx, et donc l'introduction de cette idée de l'information dans la théorie économique que développe Marc Alizart.
Oui, c'est-à-dire en relisant alors les théories qui relisent Marx à la lumière des lois de la thermodynamique, il n'est pas le premier à le faire. Il y a déjà eu pas mal de choses là-dessus. C'est-à-dire dans la thermodynamique, il y a deux lois. Il y a la loi de la conservation et la loi de la dissolution, enfin de la dissipation, disons, ce qu'on appelle l'entropie. Et donc c'est comme une machine à vapeur, c'est-à-dire que c'est vraiment d'ailleurs c'est la machine à vapeur. Et le problème, l'information répond au problème le système thermodynamique a tendance soit à imploser, soit à s'épuiser. C'est la cocotte minute avec la soupape, ou sans soupape ça explose, avec soupape ça finit par s'épuiser quand même. Et donc il faut quand même, il y a toujours ce problème de la perte et ce problème de comment est-ce qu'on recharge, comment est-ce qu'il faut résister en gros au chaos que forme l'entropie.
Résister au chaos et nourrir
voilà.
La machine.
Et nourrir
sans
la
arrêt.
Machine, voilà. D'ailleurs c'est pour ça que...
D'où le parallèle avec le capitalisme.
D'où le parallèle avec le capitalisme. Voilà. En tout cas, du coup, c'est là que c'est dans cette articulation, dans ce truc où on remet des choses dans la machine, que la question de la, il reprend toute l'histoire de la cybernétique et le problème de la théorie de l'information, qui devient le carburant possible de ce marxisme que Marx avait pensé. Voilà. Bon, moi, c'est très difficile à expliquer, c'est très difficile à comprendre. En tout cas, cette association entre le socialisme et la cybernétique, il a déjà été pensé d'une certaine manière, mais justement plutôt par des punks, parce que ceux qu'on a appelés les cyberpunk, ou même les cypherpunk, c'est-à-dire ceux qui, pour résister justement à l'emprise de l'internet tel qu'il est venu, ont plutôt travaillé sur la cryptographie, donc en faisant un système crypté.
Alors, puisqu'on a parlé des gothiques en première partie, évidemment, on parle des punks en seconde partie, ça n'a rien à voir, mais voilà, ça a quand même un petit peu, ça évolue un peu dans le même champ, Joseph Confavreux. Parlons donc de cette blockchain, de la création de cette blockchain. On avait déjà fait une émission sur la justice digitale, le livre d'Antoine Garapon et de Jean Lassègue qui s'inquiétait du rôle de la blockchain, justement, dans les prises de décision, en termes de contrat, dans les prises de décision juridiques. Là, c'est vraiment, on revient au fondement de ce qu'est la blockchain avec Marc Alizart, c'est-à-dire un moyen technique de sécuriser des échanges en se passant, par exemple, en ce qui concerne la monnaie comme le Bitcoin, en se passant d'une autorité centrale, une banque centrale et même des banquiers, en faisant des échanges de pair à pair et qui sont garantis par ce qu'on appelle les mineurs, c'est-à-dire un certain nombre de personnes extérieures qui vont décrypter l'information en permanence, qui peut donc être partagée sans jamais être reproduite, sans jamais être falsifiée. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre, mais c'est à peu près ça le blockchain. Et donc, Marc Alizard nous dit, bah voilà, le blockchain, c'est typiquement dans une société de l'information, l'outil qui pourrait permettre enfin d'aller vers le communisme.
Oui, rien que ça. Là, on vous parle. Il y a un autre livre dont on a parlé ici, qui était le livre En attendant les robots de Antonio Casilli, qui distinguait bien au fond deux versants face à la. Effectivement, au vertige technologique devant lequel on est et dont la blockchain est un élément structurant, où il montrait un peu les techno-naïfs, et à certains égards, il me semble que Marc Alizard en fait partie, c'est-à-dire que pour lui, c'est non seulement la solution à une autre redistribution monétaire, mais c'est une solution pour tout, parce que c'est vrai que c'est un protocole d'échange très élaboré, hein, inventé par quelqu'un du nom de Satoshi sur la théorie des jeux et le problème des généraux byzantins qui doivent agir en même temps de manière coordonnée mais sans se voir, et c'est vraiment là il le décrit assez bien de manière assez claire et c'est très instructif. Et il dit que non seulement donc c'est le bitcoin, pour revenir à l'étymologie, hein, c'est un bit transformé en coin, c'est-à-dire quelque chose de numérique qui se transforme en monnaie, mais lui il va plus loin que ça. Il estime que au fond, comme ça donne des preuves d'existence, des preuves de propriété, des preuves d'exécution, ça peut se substituer à peu près l'ensemble des, pas l'ensemble, mais une grande partie en tout cas des fonctions dans la société. On pourrait remplacer les notaires, et ça je pense que beaucoup de gens seraient d'accord. Sauf les notaires. La plateforme de location, l'assureur. Pour lui, en fait, on est dans un système qui garantit quelque chose de décentralisé, de collectif et d'anonyme, qui permettrait simplement de réorganiser rien que moins que l'État. C'est-à-dire que c'est là où, à mon avis, Marc Alizard aime trop les paradoxes, c'est-à-dire qu'il dit, bah, au fond, ça plaît aux anarchistes, notamment aux libertariens, enfin, c'est pas les, qui sont pas vraiment des anarchistes, qui se disent, bah voilà, une fois qu'on a la blockchain, on n'a plus d'impôts, on n'a plus de monnaie, donc on n'a plus d'État. C'est parfait. Mais lui, Marc Alizard leur dit, mais en fait, c'est au fond, c'est comme être l'État en chacun de nous. Et là, il a une comparaison qui est à la fois très forte et, à mon avis, qui fonctionne pas complètement avec et la Révolution française et la Réforme, où donc deux grands moments où on a dit ça allait être la catastrophe. Enfin, l'Église, la papauté a dit bah voilà, ça va être au fond si on ne respecte plus la hiérarchie catholique, si on met la loi de Dieu en soi, bah, ça va être la porte ouverte à toutes les décadences. Et en fait non, ça a donné une éthique rigoriste qui avait déserté en partie le catholicisme, dit Marc Alizard, qui aime beaucoup le protestantisme, hein, par ailleurs. Et la Révolution française, dont on annonçait qu'elle mettrait à feu et à sang l'ensemble des pays, au fond ça a été la naissance de l'autonomie. C'est-à-dire, pour prendre l'étymologie, vraiment la loi en soi. Et donc, en gros, il dit, Bitcoin, c'est l'équivalent de ça, c'est-à-dire que ça renverserait entièrement la production et la politique monétaire sur laquelle sont fondées toutes nos économies et tous nos gouvernements, mais ça ne serait pas une catastrophe, au contraire, ce serait, comme le communisme, une réappropriation horizontale de ce qui, aujourd'hui, fonctionne verticalement.
Un mot de conclusion, oui, Catherine Portevin.
Alors, ce qui est intéressant, c'est quand il explique, en fait, que Bitcoin, c'est assez vrai, c'est-à-dire, et là on retrouve l'accélérationnisme, c'est pousser la logique de la propriété privée jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à privatiser les moyens de production monétaire, et pas seulement production monétaire, c'est-à-dire, comme vient de le dire Joseph, effectivement, privatiser en chacun de nous l'État, la loi. Alors moi, là où c'est quand même très 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 compliqué, c'est quand il parle de la manière dont le système de la blockchain fabrique du consensus. Moi, je veux bien, mais quand il y en fait un équivalent de la délibération démocratique, je suis un peu plus sceptique, parce que malgré tout, on peut se prosterner devant le code autant qu'on veut, ça n'est jamais que des 1 et des 0, et moi j'ai un peu du mal à penser une délibération démocratique qui ne passerait quand même pas par juste des mots, échangés in vivo.
Oui, d'autant qu'il lui-même à la fin parle bien de la fracture numérique qui est déjà tellement présente qu'on se dit forcément il y aura quand même des hiérarchies. Et la deuxième chose où là vraiment on peut pas le suivre, c'est sur l'idée que il faut au fond retrouver une vision prométhéenne. Alors il se réfère à Marx, mais là pour revenir à Timothy Morton, on a bien vu que c'est cette vision prométhéenne de l'homme, de la capacité de l'homme à maîtriser la nature, qui nous a quand même amené dans une situation d'impasse. Donc l'idée de dépasser l'impasse par plus d'impasse parfois semble assez discutable.
On parlait d'amour du paradoxe. Ce livre Crypto-communisme de Marc Alizart se termine évidemment par une citation: crypto-prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Voilà, chers auditeurs, vous pouvez aller vous procurer.
Oui, au lendemain qui code.
Les lendemains qui code. Voilà.
Oui, l'absence de la formule.
L'absence de la formule, c'est certain. Donc c'est Marc Alizart, crypto-communisme dans la collection Perspective Critique. C'est aux presses universitaires de France.
L'instant critique.
L'instant critique, Joseph Confrèvre, Catherine Portevin, vous partagez des coups de cœur cette semaine. Catherine Portevin, je crois que vous êtes venue avec une revue.
Oui, je suis venue avec le dernier numéro de la revue Critique, d'édition de Minuit, dont le titre est « Vivre dans un monde abîmé ». Alors évidemment, j'ai pensé à quelque chose qui est un peu en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, notamment avec le livre de Timothy Morton. Ce numéro a été dirigé par Marielle Massé, et il y a énormément de choses que je trouve vraiment très intéressantes. Il s'agit vraiment de penser, d'une pensée de l'anthropocène. Alors, ce n'est pas tellement du Morton, parce qu'on est plutôt dans la cabane que dans le grand tout. Mais je voulais juste signaler cet article que j'ai trouvé vraiment formidable, d'une anthropologue qui s'appelle Sophie Houdard, l'article s'appelle Fukushima, l'expérience en partage. Sophie Houdard est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur le Japon, sur les représentations de la nature au Japon, au départ comme de cette manière-là. Là-dessus, Fukushima est arrivé. Et elle refait à nouveau un terrain depuis plusieurs années sur la manière dont on peut se réapproprier la nature après Fukushima. Et c'est ce qu'elle raconte dans cet article, dans cette fragilité, qu'est-ce que ça peut être de vivre avec comme hyper objet, dirait Timothy Morton, un air potentiellement contaminé. Dans cet article, je trouve qu'il est vraiment extrêmement intéressant sur ce que c'est que vivre dans un monde abîmé. Donc voilà.
Eh ben, un très bon article donc dans la revue Critique. Et donc vous faites le lien avec la première et la deuxième partie, hein, puisque la revue Critique a été fondée par Georges Bataille. Il est question de Georges Bataille. Absolument. Dans le livre de Marc Alizart, vous voyez, la boucle est bouclée.
Et dans celui, évidemment, de
Timothy Morton. Il n'y a pas de hasard dans cette émission, Joseph Confavreux.
Il n'y a pas de hasard, donc nous allons faire le lien entre la crypto-monnaie et la révolution iranienne. Non, je n'y arriverai pas.
Compliqué, ouais. Par contre, la religion qui est chère à Marc Alizart et la révolution iranienne, ce sera plus facile.
Effectivement. Et donc, il ne vous aura pas échappé qu'en janvier-février 79, la révolution iranienne mettait à bas le régime du Shah et ouvrait une séquence politique qui n'a pas fini de résonner 40 ans après. Et il y a deux livres, à mon avis, vraiment intéressants sur le sujet. L'un s'appelle Rue Engelab, la révolution par les livres Iran 1979-1973, qui est en fait issu d'une exposition qui s'est tenue au Bal et qui montre à travers...
Le Bal qui est à Paris, hein, le musée de la photographie.
Le musée de la photographie, et c'est une exposition qui va tourner, donc c'est pour ça aussi que je me permets d'en parler, qui parle de tous ces livres parfois publiés clandestinement, qui restitue une histoire beaucoup moins linéaire que celle à la fois tenue officielle par la République islamique d'Iran, mais finalement acceptée par l'Occident. C'est ce que montre bien Anna Darabi, l'artiste et collectionneuse, et Shaora Makaremi, l'anthropologue qui dirige ce livre, qui est vraiment copieusement illustré et très beau. Mais j'aimerais vous parler d'un autre livre qui traite de manière différente de ce même sujet. Il est paru chez Stock, il s'intitule « La guerre m'a parlé de loin » et il est signé de Farangis Habibi, qui était malheureusement, parce qu'elle est morte deux jours seulement après l'apparition de ce livre, jeudi 7 février, la voix persane de RFI, et elle était aussi vraiment la personne ressource auquel toute la maison de la radio s'adressait quand il s'agissait de comprendre, de savoir, de chercher quelque chose sur l'Iran. Elle a été enterrée hier vendredi, et voilà, je vous conseille de lire son livre, non seulement pour lui rendre hommage, mais pour comprendre quelque chose à ce pays.
Oui, il était important en effet de lui rendre hommage, car tout producteur, toute personne travaillant à la maison de la radio qui a un jour eu un sujet à faire sur sur l'Iran, l'a évidemment contacté. Hommage à elle. Donc, merci beaucoup, Joseph Confavreux. Catherine Portevin, Avis Critique, c'est terminé. Attachée d'émission, Catherine Donnet à la réalisation aujourd'hui, Vanessa Nadjar à la prise de son, Olivier Dupré. Cette émission est téléchargeable et réécoutable sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez évidemment également vous abonner au podcast. Il faut s'abonner au podcast d'Avis Critique. C'est de Salubrité Publique. Dans quelques instants, Jukebox.